Est-ce possible d'atteindre le vrai bonheur? Voici une question qui va nous intéresser les prochaines minutes. Mais pour se plonger directement dans le thème, je vous propose d'écouter une petite vidéo. C'est un extrait de la magnifique chanson de Christophe Maé sur le bonheur.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là?
Alors le bonheur, tout le monde le recherche, mais est-ce possible d'atteindre le vrai bonheur? La notion de bonheur est difficile à définir. Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle, disait « Vivre heureux, c'est ce que tout le monde veut, mais quand il s'agit de dire en quoi cela consiste, personne n'y voit clair. » En effet, la notion de bonheur est difficile à définir. Certains lient le bonheur au plaisir, d'autres à une vie bien menée. En fait, on a deux définitions du bonheur. Il y a le subjective well-being ou le bonheur subjectif qui consiste à ressentir beaucoup d'émotions positives, peu d'émotions négatives et d'avoir un sentiment global de satisfaction. Mais il y a aussi donc le psychological well-being, donc le bien-être psychologique qui consiste plutôt à s'accepter soi-même, à avoir des relations sociales épanouies, à se réaliser pleinement. Donc on distingue déjà deux définitions et en plus ça dépend des cultures dans lesquelles nous nous trouvons. Par exemple, dans des cultures nord-américaines, le bonheur est lié à beaucoup d'émotions très, très exubérantes. Et dans des cultures plus asiatiques, ce sont plutôt des émotions très calmes, plus intérieures, qui sont considérées comme des émotions de bonheur. Alors, la question est, est-il possible d'atteindre le vrai bonheur? Alors, qu'entend-on par vrai bonheur? Alors, je pense que cela fait référence à la durabilité du bonheur. Nous recherchons un bonheur indépendant des circonstances et qui repose sur des bases solides. À l'inverse, si nous parlons de vrai bonheur, il doit peut-être y avoir un faux bonheur qui serait finalement un plaisir de courte durée et qui aurait des conséquences négatives, peut-être comme certaines drogues peuvent en avoir. Mais nous parlons du bonheur dans une église. Et vous allez me dire, c'est quand même curieux. Comment une religion qui a pour emblème une croix, c'est-à-dire le pire instrument de torture de l'Empire romain, a-t-elle quelque chose à dire sur le bonheur? Christianisme et bonheur ne semblent pas faire bon ménage. Pourtant, je vais essayer de montrer que la foi chrétienne apporte une réponse originale à la question du bonheur. Alors, peut-on atteindre un bonheur durable, solide et comment? Alors je vous propose d'interagir, si vous le voulez bien. Il y a un QR code que vous pouvez scanner. Voilà, notre frère qui est électrosensible n'est pas là, donc vous pouvez sortir votre téléphone et scanner ce QR code, ou alors prendre votre navigateur internet, vous tapez slido.com et quand on vous demande de rentrer le code, vous rentrez le code bonheur, et puis vous arrivez sur cette question. Donc il y a une page qui va s'afficher, et puis je vous propose une première question, si vous voulez bien participer à cette question. La première question, c'est: pour moi le bonheur c'est, et puis vous complétez la phrase si vous voulez bien, et puis les réponses des uns des autres vont s'afficher sur l'écran dans un instant. Donc soit vous scannez le QR code, soit vous tapez sur votre navigateur internet slido.com, et quand on vous demande un petit code, vous tapez bonheur, et puis on arrive sur la page là qui va s'afficher avec les différentes réponses des uns des autres sur cette question du bonheur. On peut-être basculer sur l'autre fenêtre. Le temps peut-être que tout le monde se connecte. Ça fonctionne, vous pouvez compléter la phrase, vous pouvez mettre une ou plusieurs réponses. Pour moi, le bonheur, c'est, et vous complétez la phrase comme vous le pensez. Alors on peut peut-être voir les réponses qui s'affichent. Le QR code est sur l'autre page aussi, mais en plus petit. Ouais. Voilà, ceux qui veulent encore se connecter, il y a trois questions. Pour moi, le bonheur, c'est, et vous pouvez compléter la phrase, et puis dans un instant, on passera à une autre question. Voilà. Donc, rempli de joie, la joie, l'Église, être heureux, c'est entrer dans ce à quoi j'ai été appelé par Dieu, manger du chocolat, rempli de paix, la famille, le contentement, le contraire du malheur, l'amour de Jésus-Christ, avoir un mari auprès de moi, la famille, les enfants, être léger dedans, envie de louer, de chanter, envie de vivre et d'aimer, comme un élan intérieur, se sentir bien, un sentiment de satisfaction, être avec les personnes que l'on aime. C'est relatif, variable en fonction du moment, mais ça s'oppose à la souffrance. Espérance, être avec des personnes bienveillantes, c'est le sport. C'est voir Thomas le pasteur sur YouTube. Voilà, donc peut-être une ou deux personnes veulent encore rajouter. Sinon, je vous propose d'interagir la lecture. Voilà, des choses qui apportent le bonheur aux uns et aux autres. Voilà, et puis dans un instant, je vous laisse encore taper, on va passer à la deuxième question, c'est me sentir aimé et à ma place. Voilà, on peut passer à la... Ah oui, au début, effectivement, on a peut-être loupé les... Je pense que tu peux peut-être faire défiler, être dans la joie. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord, pardon, j'ai pas vu. Donc la vie, la paix dans mon cœur, les copains, avoir une famille et fonder notre propre famille à notre tour. D'accord, voilà, être dans la joie, être rempli du Saint-Esprit, vivre autre chose que moi-même, d'accord. Voilà, ben merci, la plénitude en Jésus-Christ, les audio-livres ou live peut-être. D'accord. Voilà, on peut passer à la seconde question, si tu veux bien cliquer sur la flèche en bas. Et une autre question, à votre avis, d'abord, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être toujours heureux? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être toujours heureux? Heureux en toutes circonstances, toujours heureux, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Jésus, la sécurité et la liberté, la joie, je ne sais pas, avoir une âme guérie, l'amour de Dieu, la paix, l'amour, la paix en Jésus, à manger, pas moi, l'Église, la paix, sans malheur, pas de bonheur, chanter la parole de Dieu, la paix, à vous de me le dire. La compréhension de tout le monde et tout le temps, d'accord? Savoir que mon bonheur est éternel et qu'il ne s'arrête jamais, être avec les personnes qu'on aime, vivre en paix sans conflit, parvenir à avoir une relation solide avec Dieu, qu'aucune de mes fréquentations ne pourrait entraver, et réussir à aller à l'église les dimanches pour être en présence d'autres chrétiens. Jésus, il est amour, vérité, liberté. Voilà, peut-être encore on laisse le temps à une ou deux personnes de s'exprimer. Puis ensuite, une question, voir plus loin le retour de Christ. Et puis on peut passer à la troisième question. À votre avis, la foi chrétienne est-elle un facteur limitant ou accentuant du bonheur? Et pourquoi? Alors vous pouvez écrire par exemple « limitant » deux points et vous expliquer à votre avis pourquoi c'est limitant, ou « accentuant », ça accélère le bonheur, ça l'amplifie, deux points, et on peut mettre aussi la raison pour laquelle on pense que c'est accentuant. Donc « limitant » et on explique pourquoi, ou « accentuant » et on explique pourquoi. À votre avis, donc, la foi chrétienne est-elle un facteur limitant ou un facteur accentuant du bonheur? Accentuant, ça donne un espoir à long terme. Accentuant, car Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Accentuant, car il nous aime tel qu'on est. Accentuant, nous avons un libérateur. Limitant, il faut respecter un code de vie. Limitant, on est en conflit entre Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Accentuant, car elle me donne objectif et vie. Accentuant, facteur accentuant qui limite certaines choses qui font notre faux bonheur. Accentuant, on sait où on va car Christ a la victoire. Accentuant, dans les tempêtes de la vie, la parole de Dieu nous donne l'espoir, la paix. Accentuant, pour avoir une autre vision du bonheur et pas celui de la société. Limitant, les allergiques aux mots Bible s'éloignent de moi. Accentuant, j'ai tellement besoin d'un guide, d'un mode d'emploi. Limitant, le bonheur immédiat, mais accentuant le bonheur profond à long terme. Limitant, difficile d'être toujours à la hauteur. Accentuant du bonheur, c'est vital la foi chrétienne, mais très difficile parfois. Accentuant, elle nous donne une vraie liberté. Accentuant par la force du témoignage. Accentuant car on sait aimer et on a une espérance au-delà de cette vie ici-bas. Accentuant car nous avons tout pleinement en lui. Limitant, c'est nous qui limitons. Limitant plus le malheur. D'accord. Voilà peut-être encore une question et puis je vais aller m'asseoir, hein, vous avez tout dit. Non, je pense qu'on peut aller un peu tous ensemble dans la réflexion du bonheur par rapport à la Bible. Donc je lis encore peut-être cette dernière réponse qui s'est affichée, puis on peut retourner sur le diaporama. Je ne peux pas le dire ou limitant, Christ serviteur souffrant, accentuant sa résurrection. Voilà, merci. On peut rebasculer sur le diaporama. Merci pour votre participation qui nous donne beaucoup d'éléments de réflexion déjà. Et je vous propose donc de rentrer dans une réflexion basée sur la Bible par rapport à la question du bonheur. Premièrement, nous avons été créés pour le bonheur. La Bible nous apprend que nous avons été créés pour le bonheur dans la dépendance de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu adressées à Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui nous renseignent là-dessus. Donc Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17, je les lis. « L'Éternel ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, de celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors ce qui est curieux, c'est que nous retenons beaucoup plus facilement l'interdiction que l'invitation. Dans ces versets, ça commence par une invitation au bonheur. « Mange librement de tous les arbres du jardin », l'interdiction, c'est sauf un. On retient souvent le sauf un, mais on oublie cette invitation au bonheur. Cela signifie que nous devons profiter de tous les biens de la création que Dieu nous a donnés. Et cette invitation est donnée dans un cadre qui en garantit l'efficacité. Ce cadre est la dépendance de Dieu. C'est refuser de se prendre soi-même pour Dieu, de décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et cela est illustré par l'arbre du choix entre le bien et le mal. Donc prendre son fruit correspond à se révolter contre Dieu et cela entraîne le malheur et la mort, d'après le texte. L'humanité est donc invitée à profiter de la vie tout en dépendant de Dieu. Et le bonheur est présent lorsque nous sommes reliés à Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie. Se couper de Dieu, c'est se couper de la source de la vie, comme un arbre qui serait coupé d'un torrent d'eau, ben, il va se flétrir et puis finir par mourir. Nous avons été créés pour une relation avec Dieu dans une dépendance de lui, et nous recevons de lui donc les instructions et les moyens pour vivre dans la joie. Et nous sommes heureux lorsque nous vivons en conformité avec ce pourquoi nous avons été créés. Dans la vie de tous les jours, nous sommes heureux lorsque nos activités correspondent à qui nous sommes. Moi, par exemple, j'aime bien les maths, et quand j'étais au lycée, même à la fac, et que j'avais cours de maths, j'étais heureux. Bon. Pour d'autres, c'était le contraire, c'était leur bête noire. Certains sont heureux quand ils font des travaux dans la maison, et pour d'autres, ça, c'est la pire des corvées. Voilà, quand on fait les activités qui correspondent à qui nous sommes donc heureux. Et il en va de même avec Dieu. Lorsque nous faisons ce pour quoi nous avons été créés, eh bien, nous sommes heureux. Et la Bible nous dit que nous avons été créés en image de Dieu pour être en relation avec Dieu. Et c'est donc lorsque nous sommes tournés vers lui que nous pouvons goûter au bonheur. Alors c'est important de savoir pourquoi nous sommes faits. Parce que si notre bonheur correspond à faire ce pour quoi nous sommes faits, il est intéressant de savoir pourquoi nous sommes faits. Alors je vous propose une petite vidéo qui illustre l'importance de savoir pourquoi quelque chose est fait. Alors cette vidéo est en allemand, mais elle est sous-titrée, et de toute façon les images sont explicites. C'est très court.
Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben?
Gut.
Mit den ganzen Apps kommst du klar?
Was denn für Apps? Geh mal bitte ein Stück zur Seite. So.
Voilà, vous avez compris. Il n'a pas compris que la tablette, ce n'était pas une planche à découper. Alors, le problème, c'est que nous sommes coupés du Créateur. Nous avons été créés pour vivre dans la relation avec Dieu, mais nous nous sommes coupés de notre Créateur. Nous avons bafoué son honneur en décidant par nous-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Et nous avons voulu être notre propre Dieu sans lui laisser sa place. Et cela a eu d'énormes conséquences. Nous avons commencé à faire n'importe quoi. Nous avons mis des iPads au lave-vaisselle, et plus grave encore. Nous avons voulu jouer sans arbitre et sans règles. Et du coup, le jeu est devenu beaucoup moins amusant. Le Créateur a été offensé et nous nous sommes séparés de lui. Du coup, nous recherchons des moyens de retrouver le bonheur. En fait, nous cherchons à profiter des arbres du jardin sans tenir compte du jardinier. Alors, plusieurs moyens de chercher le bonheur. Il y a la quête du bonheur par les plaisirs. Nous recherchons le bonheur par les plaisirs de la vie. Et c'est vrai que cela apporte du bonheur de boire un bon café, de regarder un bon film, écouter une bonne musique, aller se balader. Les plaisirs de la vie sont des cadeaux de Dieu et nous poussent à la reconnaissance. Mais le bonheur par les plaisirs entraîne aussi quelques petites frustrations. Les plaisirs ne sont pas illimités, les vacances sont toujours trop courtes. Et puis parfois nous empruntons au futur, pour nous accomplir dans le présent, et cela n'est pas non plus sans difficulté, puisque certains des plaisirs coûtent cher. Et la course au plaisir crée aussi des pressions énormes sur les gens. Pascal Bruckner, dans un article qui s'appelle « La tyrannie du bonheur », écrit « Nous constituons probablement les premières sociétés de l'histoire à rendre les gens malheureux de ne pas être heureux ». Et il écrit « Le droit au bonheur s'est transformé en devoir de bonheur, et cela écrase aussi les gens ». Alors on peut aussi trouver le bonheur par la discipline. Un autre chemin vers le bonheur est le chemin de la discipline. En ayant une vie ordonnée, équilibrée, disciplinée, nous allons trouver le bonheur. Les philosophes stoïciens, par exemple, cherchaient le bonheur en menant une vie en accord avec la nature. Ils prenaient un acquiescement sans réserve à leur sort, quel qu'il soit. Mais est-ce vraiment possible de trouver le bonheur comme ceci ? Alors effectivement, je pense que dans tout ce qui nous arrive, nous pouvons en retirer du positif. Ceci dit, je dirais qu'accueillir tout comme un bien, c'est un petit peu trop loin, parce que parfois ce qui fait avancer, c'est justement de se révolter par rapport aux différentes circonstances. Ce qui a fait progresser le développement, c'est par exemple le combat contre la maladie, la mort et l'injustice qui ont fait progresser la société, et non pas l'acceptation de ces choses comme un bien. L'épicurisme fait du plaisir le bien suprême, mais cela n'empêche pas une discipline de vie pour l'accomplir. Épicure écrit « Il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs lorsqu'il en découle pour nous un désagrément plus grand, et nous regardons beaucoup de douleurs comme valant mieux que des plaisirs. » Parfois, on a un peu une caricature de l'épicurisme en se disant « c'est que la recherche du plaisir ». C'est la recherche du plaisir par la discipline qui implique parfois de renoncer à certains plaisirs pour en avoir un plus grand. Albert Camus dira qu'il faut accepter la condition absurde de la vie pour s'en libérer et trouver le bonheur. « Il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit », nous écrit-il. Alors aujourd'hui, la voie de la discipline passe souvent par la méditation ou par une discipline physique. Alors c'est très important d'apprendre à s'écouter, à vouloir trouver des ressources en nous. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a là un paradoxe, parce qu'on recherche en nous des ressources pour nous fortifier. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un système où il n'y a pas d'énergie extérieure. Si on cherche en nous les moyens de nous regonfler, quelque part, il n'y a pas d'apport extérieur. C'est comme un peu si on veut recharger un téléphone portable avec une batterie de secours, puis après on veut recharger la batterie à l'aide du téléphone, etc. À un moment donné, s'il n'y a pas d'apport extérieur, on aura du mal à recharger nos appareils. Alors la quête du bonheur par les biens matériels. Et c'est vrai que les biens matériels aident au bonheur, ce sont des cadeaux de Dieu. Si on en croit la société de consommation, les biens matériels sont la solution à la question du bonheur. Je vous laisse regarder une petite pub qui illustre très bien cela.
C'était la chose la plus importante pour nous au départ.
Le soir, dès qu'on rentrait, on s'y mettait.
Et puis là, c'est devenu de plus en plus compliqué.
Ça fait un an qu'on laisse traîner le problème et on commence vraiment à avoir faim.
Fini la galère. Yes. Xina, c'est la cuisine sur mesure, accessible, installation comprise.
Alors, si vous voulez un couple heureux, il faut acheter une nouvelle cuisine. Mais le problème, là, on en rigole tous, c'est qu'on y croit tous à ces choses-là. Ah oui, quand j'aurai ma nouvelle voiture, ah là, même les embouteillages, ça ne me dérangera plus. Puis on a la nouvelle voiture, et puis quelques années plus tard, on râle toujours autant dans les embouteillages. Ou quand j'aurai ce nouveau téléphone, alors là, je serai heureux. Puis on reçoit le nouveau téléphone, et quelques mois plus tard, on n'est pas beaucoup plus heureux. Catherine Goyot, qui a écrit l'avant-propos du hors-série du Point sur le bonheur, écrit « La science et la société de consommation » La science et la société de consommation ont-elles élargi le champ des possibles ? Elles ont supprimé le manque en permettant de réaliser presque tous les désirs matériels. Mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux ? Les relations aussi sont source de bonheur. Les relations jouent un rôle essentiel dans notre bonheur. Il est difficile d'être heureux sans amis. Le professeur Oswald a calculé à titre théorique combien d'argent il faudrait gagner en plus par mois pour compenser le fait de ne pas avoir d'amis. Alors je ne connais pas sa méthode de calcul, hein, ça me paraît bizarre, mais la réponse est 6 000 euros. Voilà. Pour compenser le manque d'amis, il faudrait à avoir 6000 euros de plus. Un proverbe chinois dit « Si tu veux le bonheur pendant une heure, fais une sieste. Si tu veux le bonheur pendant un jour, va pêcher. Si tu veux le bonheur pendant une année, hérite une fortune. Si tu veux le bonheur pour toute ta vie, aide quelqu'un. » Et c'est vrai que les relations humaines nous procurent beaucoup de bonheur. Mais là encore, c'est limité, parce que malheureusement, les amis peuvent nous trahir ou disparaître. Et puis, j'ai trouvé ce graphique de Jodry Coadbach, qui est docteur en psychologie et auteur du livre « Pourquoi les gens heureux vivent plus longtemps ?». Il parle du niveau de bonheur en fonction du nombre d'années de mariage. Et puis, sa conclusion, c'est que quelle que soit la situation, nous revenons le plus souvent à notre ligne de base, c'est-à-dire au niveau de bonheur auquel nous sommes en quelque sorte prédisposés. Donc, voilà, à réfléchir. Donc, nous voyons que les relations peuvent nous apporter beaucoup de bonheur, mais aussi, même des relations très fortes, comme le mariage, ne garantissent pas un bonheur éternel et long terme. Nous recherchons beaucoup le bonheur et certaines choses nous l'accordent, mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Alors les bonnes choses nous permettent de goûter au bonheur et elles sont comme un guide vers Dieu. Un auteur de la Bible dit « Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Les joies de la vie devraient susciter en nous un élan de reconnaissance, mais reconnaissance envers qui ? Le même auteur écrit en parlant de Dieu « Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoi qu'il ne se soit pas laissé sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant du ciel pluie et saison féconde, en vous comblant de nourriture et de bonheur. » D'après l'apôtre Paul, le bonheur est une manière dont Dieu se révèle au monde. Le bonheur est un signe de l'existence de Dieu. D'où vient le bonheur si ce n'est de Dieu ? L'académicien François Cheng, dans son livre sur la beauté, fait remarquer que la beauté n'a pas de fonction utile à la vie, mais c'est comme un cadeau en plus de la vie. Par exemple, nous pourrions manger tout le temps la même chose qui nous donnerait assez de graisse, de sucre, etc., de vitamines, mais qui n'aurait pas de goût. Et ça nous permettrait quand même de vivre. Mais nous avons la chance de manger des avocats, des ananas, etc., etc., des goûts très variés, des framboises, des myrtilles. Et quand on, c'est du bonheur. Et puis, d'où vient ce bonheur, cette beauté dans la vie, si tout est un accident hasardeux? D'où vient même notre soif de bonheur? Pourquoi réclamons-nous le bonheur? Cela, pour moi, est quelque chose qui pointe en direction de Dieu. La Bible nous dit que les bonheurs de la vie sont des cadeaux de Dieu. Dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste, il y a un refrain sur le bonheur qui revient plusieurs fois et qui dit « Si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Le bonheur est un don de Dieu. Mais en même temps, nous constatons que les bonheurs de la vie ne sont jamais complet et pleinement durable. Pour illustrer cela, un petit conte, le conte du tailleur de pierre. Alors c'est quelqu'un qui est tailleur de pierre, et donc il taille la roche et il vend des pierres, et un jour il va chez un riche marchand pour vendre ses pierres. Et là il dit « Ah, si jamais j'étais un jour comme lui, plein de richesses, alors là je serais heureux. » Le génie de la forêt exauce son, le génie de la montagne exauce son vœu, il devient riche marchand. Alors, il profite des joies de la richesse, et un jour, le roi vient à passer. Et tout le monde s'incline sur son passage. Alors, il dit « Ah, mais si j'étais le roi, là, vraiment, je serais heureux. » Alors, le génie de la montagne accomplit son vœu, il devient le roi. Un jour, il y a une canicule extraordinaire. Et tout le monde est transpirant, dégoulinant, ne peut plus travailler parce que le soleil écrase. Même le roi ne peut pas supporter cette chaleur. Alors, le roi pense, mais si j'étais le soleil, alors là vraiment, je serais le plus heureux. Alors le génie de la montagne exauce son rêve, il devient soleil. Et là, il écrase de sa chaleur tous les êtres vivants. Mais la montagne, elle reste, ça ne lui fait rien du tout, les rayons du soleil. Alors il dit, mais si j'étais la montagne, alors là, je serais vraiment heureux. Alors le génie de la montagne accomplit son rêve, il devient montagne. Et il se sent bien, rien ne peut le perturber. Quand soudain, il sent quelque chose qui le démange au pied. C'est un petit tailleur de pierre qui est en train de tailler ses pierres. Cette illustration, simplement pour dire que nous ne sommes jamais vraiment pleinement satisfaits de tous les bonheurs qu'on peut avoir. Plus on en accumule, plus on en veut encore. Et l'insatisfaction qui demeure malgré tous les bonheurs, quelque part, est aussi un panneau qui indique la direction de Dieu. Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, a écrit, parlant de cette quête de bonheur, qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette puissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, cherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. On résume parfois cette citation en disant « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu ». Et tant qu'on n'a pas rempli ce vide avec la bonne forme, eh bien, il reste là. Plus proche de nous, l'auteur britannique C.S. Lewis a dit ceci « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ? Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu, pour vivre en harmonie avec lui, et tant que nous ne sommes pas dans cette position, eh bien nous sommes dans un trouble intérieur. Augustin, Kabyle du IVe siècle, dans son livre Les Confessions, formule une prière à Dieu et dit « Vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Alors, comment donc retourner vers notre Créateur ? Eh bien, c'est impossible du côté de l'homme. Mais Dieu prend l'initiative. « Où es-tu ?» C'est la question qu'il lance à l'homme une fois que celui-ci s'est détourné de lui. « Où es-tu ? » Dieu prend l'initiative. Et la solution de Dieu pour réconcilier l'humanité avec lui-même passe par la croix. C'est le grand renversement. L'instrument du malheur devient le chemin du bonheur. Avant sa crucifixion, Jésus prévient ses disciples : vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Jean 16, 20. La pire condamnation pour la plus grande réconciliation. L'instrument du malheur pour le plus grand bonheur. Comment comprendre cela ? L'humanité a rejeté Dieu et cela a entraîné beaucoup d'actes mauvais. Cela entraîne la colère de Dieu envers l'humanité. À cause de son amour, de sa justice et de sa perfection, Dieu ne peut pas supporter le mal. Alors quand on dit colère, on s'imagine peut-être comme un papa qui se met en colère contre ses enfants. C'est pas ça, la colère, c'est la juste réaction d'un Dieu parfait face à l'imperfection. C'est comme un peu si vous lancez des gouttes froides sur une poêle chaude, et bien, ça fait une réaction violente, parce qu'il y a incompatibilité de nature entre la chaleur et la fraîcheur. Et c'est cela qu'on traduit par le mot colère. À cause de la justice, de l'amour et de la perfection de Dieu, il ne peut supporter tant de mal dans le monde. Et donc, pour que cette relation soit restaurée, eh bien, il faut que sa justice soit apaisée et satisfaite. Et c'est le sens de la croix. Jésus paye pour nos péchés. Nos péchés, c'est-à-dire notre attitude rebelle à Dieu et tous les actes mauvais ou l'absence d'actes bons qui en découlent. C'est le sens de ce texte. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. C'est pour ça, tout à l'heure, dans un chant, on a dit « J'entre par le sang de l'agneau ». L'agneau, c'est un titre que Jean-Baptiste donne à Jésus pour dire « C'est celui qui va servir de sacrifice pour le péché ». Comme l'expliquent ces versets, la mort de Jésus sert de sacrifice pour nos péchés, c'est-à-dire nos actes contraires à la volonté de Dieu et notre attitude rebelle à Dieu, notre désir finalement d'être Dieu à la place de Dieu. Grâce à la croix de Jésus, notre relation devient à nouveau possible avec Dieu. Et c'est ce qui est exprimé par le même auteur un peu plus loin. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. C'est-à-dire déjà maintenant, une relation est de nouveau possible. Et le texte continue, « Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Et il y a quelque chose d'autre encore qui arrive. Aujourd'hui, nous pouvons déjà goûter à cette relation harmonieuse avec Dieu. Il n'y a plus d'obstacle entre nous et Dieu parce que Jésus-Christ a pris ces obstacles sur lui et en a payé la condamnation. Nous pouvons recevoir de lui la vie et le bonheur. Nous pouvons connaître à nouveau ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire être en relation avec Dieu. Nous pouvons à nouveau le vivre. L'événement tragique de la crucifixion de Jésus-Christ est suivi de sa résurrection. Il revient à la vie et cela est la preuve du bonheur à venir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vient progressivement mettre du bonheur dans notre vie. Nous goûtons au bonheur d'une relation restaurée avec lui, mais nous sommes toujours dans un monde frustrant. Nous sommes toujours dans un monde douloureux où nous traversons des difficultés. Mais le croyant les traverse avec un réconfort et une assurance qu'un autre monde va venir, qu'un jour le malheur n'existera plus. À la fin de la Bible, on peut lire cette promesse extraordinaire qui nous parle d'un monde débarrassé de mal, où il est dit « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors le chrétien n'est pas épargné par les difficultés de la vie, il en connaît parfois même plus, car il essaye de suivre les voies de Dieu dans un monde qu'il a rejeté. Le croyant n'est pas immunisé contre les maladies, les deuils, la souffrance, la déception ou le découragement. Mais sa vie, et il faut reconnaître que sa vie n'a pas toujours les couleurs d'une fête permanente, mais lorsqu'il traverse les moments difficiles, il a deux atouts importants, la confiance en l'accompagnement bienveillant de Dieu et l'espérance qu'un jour tout cela se finira. Le chrétien éprouve donc une joie qui résulte d'un état d'harmonie avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Alors, je ne veux pas vendre du rêve. Jésus a prévenu ses disciples qu'ils auraient des difficultés, mais il a aussi dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Alors maintenant, qu'allons-nous faire de cette solution proposée par Dieu ? Nous avons vu beaucoup de choses assez originales, peut-être même contre-intuitives. Le bonheur consisterait à mener la vie telle que Dieu l'a voulu pour nous. Alors cela soulève bien sûr des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-il l'auteur de la vie? Sait-il mieux que moi ce qui peut me rendre heureux? Puis-je faire confiance à la Bible qui m'indique la source du bonheur? Et ces questions ne sont pas faciles et demandent de l'investigation. Mais elles sont tellement importantes que je vous encourage à mener cette investigation. Il en va de votre bonheur présent et à venir. Et si cette matinée était pour vous le démarrage d'un chemin vers le bonheur selon Dieu? Alors sur ce chemin, ne marchez pas seul. Profitez des gens qui ont déjà emprunté ce chemin, posez vos questions, creusez, observez la vie de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Sur ce chemin, des livres aussi peuvent vous aider, la Bible en particulier, et la communauté des croyants est aussi une aide pour notre réflexion. Mais après tout, si les chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent ne vous ont pas apporté le bonheur, pourquoi ne pas essayer celui-ci? Mais peut-être que ce matin, vous êtes prêt à saisir le bonheur qui consiste à vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Si vous n'avez pas encore vécu cette réconciliation avec Dieu et donc connu cette joie de vivre en relation avec lui, eh bien je vous invite à la repentance et la foi. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? C'est la prise de conscience que notre vie sans Dieu le déshonore et notre engagement à changer. Et la foi, c'est cette confiance en Dieu, et en particulier c'est comprendre que la mort de Jésus compte pour nous et quel est le moyen par lequel Jésus prend nos péchés et nous accorde le plein pardon. La repentance et la foi sont des expériences à vivre tous les jours. Mais nous pouvons exprimer cette volonté initiale par une prière. La prière, c'est parler à Dieu et nous pouvons utiliser nos propres mots. Par exemple, les mots d'enfant, pardon, oui et merci. Une prière par rapport à Dieu pour entrer dans le bonheur qu'il nous propose pourrait ressembler à celle-ci. Pardon de ne pas avoir tenu compte de ta volonté et de n'en faire qu'à ma tête. Oui, oui, je crois que Jésus est mort pour moi pour me pardonner de mes péchés. Oui, je décide de me détourner de ma manière de vivre pour t'obéir. Et merci pour la solution que tu as prévue pour mon bonheur. Si vous n'avez pas déjà expérimenté cette réconciliation avec Dieu, alors je vous invite à retenir cette prière. Choisir des gens qui la prennent en photo, pourquoi pas, pour s'en souvenir, ou en tout cas y réfléchir. Et si vous avez déjà accepté cette réconciliation, je vous invite à grandir dans cette vie de bonheur, comme l'exprimait l'auteur de la prière numéro 73 dans le livre des psaumes. « Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu ». Alors, pour conclure, est-il possible d'atteindre le vrai bonheur? Eh bien, si nous restons séparés de Dieu, nous pouvons goûter au bonheur de la vie, mais nous ne connaîtrons pas la joie de vivre la vie telle que Dieu l'a créée pour nous. Si nous saisissons la solution de Dieu pour nous rétablir dans une relation d'harmonie, alors nous connaîtrons ce bonheur d'être enfin alignés avec notre Créateur, vivre la vie telle que Dieu l'a prévue. Nous aurons la joie de recevoir le Saint-Esprit qui vient transformer notre cœur et nous avons la joie d'attendre cette espérance d'un monde débarrassé de souffrance. Alors pour réfléchir à tout cela, et peut-être faire un pas vers Dieu ce matin, je vous invite à écouter une chanson sur le bonheur. C'est sans doute la chanson la plus connue sur le bonheur. Et elle est d'inspiration chrétienne. Peut-être vous avez deviné. Ici, là, dans la vidéo, elle est chantée par Florent Pagny. Alors, il y a quelques années en arrière, vous allez voir, il a pris quelques cheveux gris. Donc ce chant exprime le bonheur du pardon accordé par Jésus. Je vous laisse. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un bus comme ça. C'est pas les bus de la RATP ou de la communauté urbaine de Strasbourg, mais ça donne envie, ça donne envie. En tout cas, voilà, si vous avez des questions ou des remarques, je me tiens à votre disposition pour continuer la discussion. Et si vous avez prié, peut-être pour la première fois ce matin, pardon, oui et merci, eh bien voilà, je vous invite aussi à venir me voir, que je puisse vous donner aussi des conseils pour faire vos premiers pas dans la vie chrétienne. Et puis si vous voulez, si vous le désirez, je me tiens aussi à disposition pour prier pour vous. Voilà, merci pour votre attention.